Le problème d'une série, c'est que dans le temps, on perd un peu le fil. Qu'est-ce qui a été dit? Où en sommes-nous? Donc je vous propose de revenir sur certains des derniers points que nous avons vus ensemble. Nous avons vu que le pécheur est un pécheur parce qu'il est né pécheur, par héritage, non parce qu'il a commis des péchés. Donc, je ne peux pas, en améliorant ma conduite, faire de moi autre chose qu'un descendant d'Adam. Donc, un pécheur. Nous avons vu aussi que notre voie, ce que nous pensons comme moyen de nous en sortir, consiste à supprimer le péché en cherchant à le vaincre. La voie de Dieu, elle, consiste à mettre de côté le pécheur. Donc le péché demeure, mais son serviteur, lui, est crucifié. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. L'esclavage du péché est venu par la naissance. La délivrance du péché vient par la mort. Et c'est précisément le moyen de délivrance auquel Dieu a pourvu en Christ. Nous avons vu que nous n'avons pas à chercher à entrer en Christ. Là encore, Dieu vient à notre secours. C'est lui qui nous a mis dans le Christ Jésus. 1 Corinthiens 1:30. Et ce qu'il a fait à Christ, il l'a fait à la race entière. Notre mort avec Christ est un fait accompli. Nous n'arriverons jamais à réaliser notre crucifixion par notre volonté ni par nos efforts, mais seulement en acceptant ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix. Il faut que nos yeux soient ouverts sur l'œuvre accomplie au calvaire. Ce qui est vrai de notre pardon est aussi vrai de notre délivrance. L'œuvre est accomplie. Il ne s'agit plus de demander, mais seulement de louer. Nous avons vu que les chapitres 6, 7 et 8 des Romains nous proposent quatre étapes dans un sens bien défini. Nous avons vu la dernière fois savoir que nous sommes crucifiés avec Christ. Aujourd'hui, nous allons voir se considérer comme, et les prochaines fois, s'offrir à Dieu et marcher selon l'Esprit. Le premier pas que nous avons vu la dernière fois, sachant bien que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Aujourd'hui, donc, le chemin du progrès, se considérer comme. Nous arrivons maintenant à un sujet sur lequel il y a une certaine confusion de pensée parmi les enfants de Dieu. Il s'agit de ce qui doit suivre la connaissance de notre crucifixion en Christ. Arrêtons-nous avant tout sur chaque mot de Romains 6, 6. Sachant bien que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le temps de ce verbe est des plus précieux, car il fait remonter avec précision l'action dans le passé. Jean Carvalho me précise qu'il s'agit d'un aoriste indicatif passif. Mon grec ancien étant ce qu'il est, merci Jean, pour cette précision, l'aoriste indique une action vue dans sa totalité. Elle a été accomplie une fois pour toutes. La chose a été faite et elle ne peut plus être annulée. Notre vieil homme a été crucifié une fois pour toutes. Et il ne peut plus jamais être non crucifié. Voilà ce qu'il nous faut savoir. Ensuite, sachant cela, qu'est-ce qui va suivre? Relisons notre passage. Le prochain pas nous est donné au verset 11. « Vous donc aussi, considérez-vous comme mort au péché. » Ceci est la suite naturelle du verset 6. Relisons-les ensemble. « Sachant bien que notre vieil homme a été crucifié avec lui, » vous donc aussi, considérez-vous comme mort. C'est l'ordre naturel. Une fois que nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, le pas suivant est de le considérer comme mort. Malheureusement, en présentant la vérité de notre union avec Christ, on a trop souvent mis l'accent sur ce deuxième point, nous considérer comme mort, comme si c'était le point de départ, tandis qu'il devrait être mis sur le premier fait essentiel, savoir que nous sommes morts. La parole de Dieu montre clairement que savoir doit précéder ce considérer. Sachant bien que, considérez-vous. Le fait que nous nous considérons doit être basé sur un fait divinement révélé. Sinon, la foi n'aurait pas de fondation sur laquelle s'appuyer. Lorsque nous savons, alors spontanément, nous nous considérons comme. Ainsi, en touchant à cette question, il ne faudrait pas souligner avec trop d'insistance cette question de se considérer. On est trop porté à essayer de se considérer sans savoir. Si l'on n'a pas eu d'abord une révélation par l'esprit du fait que notre vieil homme est mort et qu'on essaye cependant de se considérer comme mort au péché, on est entraîné dans toutes sortes de difficultés. Lorsque survient la tentation, on commencera à se persuader fébrilement « Je suis mort, je suis mort, je suis mort ». Mais par l'effort même, on finira par se lasser et finalement par s'épuiser. Et l'on pensera alors « Cela ne sert à rien, Romains 6,11 ne peut pas être expérimenté. Il nous faut admettre que le verset 11 ne peut pas être vécu sans le verset 6. » À moins de savoir comme un fait que nous sommes morts avec Christ, plus nous essayerons de nous considérer comme tels, plus intense sera le conflit et plus certaine sera la défaite. Watchman Nee rapporte cette expérience. Durant des années, après ma conversion, on m'avait enseigné à me reconnaître comme mort avec Christ. J'ai essayé de le faire de 1920 à 1927. Plus je me considérais comme mort au péché, plus j'étais manifestement vivant. Je ne pouvais tout simplement pas me croire mort et je ne pouvais pas produire cette mort. Dès que je cherchais de l'aide chez les autres, on me disait de lire Romains 6,11. Et plus je lisais Romains 6,11, en essayant de l'appliquer à moi-même, plus cette mort semblait s'éloigner. Je ne pouvais pas y arriver. J'étais tout à fait désireux d'obéir à cet enseignement et de me considérer comme mort, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi je n'y arrivais pas. Je dois confesser que cela me troubla durant des mois. Je dis alors au Seigneur, si je ne puis pas comprendre clairement, si je ne puis arriver à voir cette vérité si fondamentale, je ne ferai plus rien. Je ne prêcherai plus. Je ne veux plus te servir. Je dois, avant tout, être parfaitement au clair sur cette question. Je cherchais ainsi pendant des mois. Parfois, je jeûnais, mais sans arriver à rien. Je me souviens d'un matin, ce fut un matin que je ne pourrai jamais oublier, j'étais dans ma chambre, assis à mon bureau. Je lisais la parole de Dieu et priais. Et je dis, « Seigneur, ouvre mes yeux. » Alors, dans un éclair, je vis mon union avec Christ. Je vis que j'étais en lui et que lorsqu'il mourut, je mourus aussi. Je vis que la question de ma mort était une affaire du passé et non de l'avenir et que j'étais tout aussi mort que lui puisque j'étais en lui lorsqu'il est mort. La lumière avait enfin jailli en moi. Cette grande découverte me transporta d'une telle joie que je sautai de ma chaise et m'écriai « Que le Seigneur soit loué, je suis mort !» Je descendis l'escalier en courant et rencontrai l'un des frères qui aidait à la cuisine. Je le saisis et lui dis « Frère, sais-tu que je suis mort ?» Je dois admettre qu'il eut l'air étonné. « Que voulez-vous dire ?» me répondit-il. « Ne sais-tu pas que Christ est mort ? Ne sais-tu pas que je suis mort avec lui ? Ne sais-tu pas que ma mort est un fait tout aussi certain que la sienne ? C'était tellement réel pour moi. J'aurais voulu courir dans les rues de Shanghai et y proclamer la nouvelle de ma découverte. À partir de ce jour, je n'ai jamais douté un seul instant du caractère définitif de cette parole. J'ai été crucifié avec Christ. Galates 2,19. Il est à noter que c'est un parfait indicatif passif qui exprime une action subie et surtout qui a eu lieu dans le passé et dont l'effet perdure dans le présent. Il y a certes une application de cette mort que nous allons considérer dans un instant, mais nous avons ici, avant toute chose, le fondement. J'ai été crucifié, cela a été fait. Quel est donc le secret qui nous amène à nous considérer comme morts? Pour l'exprimer en un mot, c'est une révélation. Il nous faut une révélation de Dieu lui-même. Tout comme l'expérimenta l'apôtre Pierre lorsqu'il déclara que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit alors, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 17. Paul, aussi, était très conscient de la nécessité d'avoir de telles révélations surnaturelles dans nos cœurs pour que nous progressions dans notre marche chrétienne. Ainsi, il écrit aux Éphésiens, « Je prie, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, de vous accorder un esprit de sagesse et de révélation qui vous apprenne à le connaître et d'illuminer les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance que fait naître en nous son appel, quelles sont pour les saints les richesses de son glorieux héritage. » Éphésiens 1, versets 17 et 18. Il emploie les termes de révélation, d'illumination, ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas simplement de pensées communes, naturelles. Il est nécessaire que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de notre union avec Christ, et c'est plus que la connaître comme une doctrine. Une telle révélation n'a rien de vague ni d'indéfini. Nous pouvons, la plupart d'entre nous, nous rappeler le jour où nous avons vu clairement que Christ est mort pour nous, et nous devrions être également au clair sur le moment où nous avons vu que nous sommes morts avec Christ. Ce ne doit pas être quelque chose de nébuleux, mais de très précis, car c'est en nous appuyant sur cette base que nous pourrons avancer. Ce n'est pas parce que je me considère comme mort que je le suis, c'est parce que je suis mort, parce que je vois ce que Dieu a fait de moi en Christ. C'est pour cela que je me considère comme mort. C'est la juste manière de se considérer. Il ne s'agit pas de le faire pour arriver à la mort, mais je le fais parce qu'elle est déjà accomplie en Christ. Le second pas. Vous donc aussi, considérez-vous comme. Que signifie se considérer comme? Le verbe de ce verset, traduit généralement par se considérer, a pour sens premier déterminé par un processus mathématique et comme sens dérivé, évaluer, estimer. Ici, considérer signifie donc tenir des comptes, faire de la comptabilité. Tenir des comptes est la seule chose au monde que nous, êtres humains, puissions faire avec précision. Un artiste peint un paysage, peut-il le faire avec une exactitude parfaite? L'historien peut-il garantir l'exactitude absolue d'une donnée, ou le géographe la fidélité exacte d'une carte? Ils peuvent, au mieux, arriver à faire d'assez bonnes approximations. Même dans la conversation courante, quand nous essayons de raconter un incident avec la meilleure intention d'honnêteté et de véracité, nous sommes incapables de parler avec une entière exactitude. Il est si facile d'exagérer ou d'atténuer les faits, de dire un mot de trop ou de ne pas en dire assez. Qu'est-ce que l'homme peut faire qu'il soit absolument digne de confiance? L'arithmétique. Il n'y a là aucune place pour l'erreur. Une chaise plus une chaise font deux chaises. Cela est vrai à Londres et c'est vrai au Cap. Que vous alliez à l'ouest à New York ou à l'est à Singapour, ce sera partout la même chose. Dans le monde entier et dans tous les temps, un et un font deux. Un et un font deux dans les cieux, sur la terre et en enfer. Poursuivons notre analogie avec la tenue des comptes. Supposons que j'ai 200 euros dans ma poche. Que vais-je inscrire sur mon livre d'un compte? Puis-je inscrire 190 euros ou 210 euros? Non. Je dois inscrire dans mon livre de compte ce qui est réellement dans ma poche. Tenir des comptes, c'est reconnaître des faits. Ce n'est pas de la fantaisie. Ainsi donc, c'est parce que je suis réellement mort que Dieu me dit de me considérer comme tel. Dieu ne pourrait pas me demander de me considérer comme mort si j'étais encore vivant. Pour une telle gymnastique mentale, le mot « considérer » ne serait pas approprié. Il faudrait plutôt parler de « supposer ». Considérer n'est pas une forme de prétention. Si j'ai seulement 100 euros dans ma poche et que je porte faussement 120 euros sur mon livre de compte, une telle comptabilité ne pourra en aucune manière combler de déficit. Si je n'ai que 100 euros et que j'essaye de me persuader en répétant « j'ai 120 euros », J'ai 120 euros, j'ai 120 euros. Croyez-vous que l'effort mental réussira à affecter la somme qui est dans ma poche? Pas le moins du monde. Aucun effort de persuasion ne pourra jamais changer 100 euros en 120 euros et ne rendra vrai ce qui est faux. Mais d'un autre côté, s'il est vrai que j'ai 120 euros dans ma poche, je puis en toute liberté et avec une grande assurance inscrire 120 euros dans mon livre de compte. Dieu nous demande de nous considérer comme morts, non pas pour que nous mourions en le faisant, mais parce que nous le sommes. Il ne nous a jamais demandé de reconnaître une chose qui ne serait pas un fait. Nous avons dit que cette révélation nous amène naturellement à nous considérer comme morts. Mais nous ne devons pas perdre de vue que c'est un ordre qui nous est donné. Considérez-vous. C'est une attitude bien précise à prendre. Dieu nous demande de faire le compte, d'inscrire « Je suis mort » et d'en rester là. Pourquoi ? Parce que c'est un fait. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la croix, j'y étais en lui. C'est pourquoi je le considère que c'est vrai. Je le reconnais et déclare que je suis mort en lui. Paul dit en Romains 6, 11 « Considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu. » Comment est-ce possible ? En Jésus-Christ. N'oublions jamais que c'est toujours et seulement vrai en Christ. Si nous regardons en nous-mêmes, nous penserons que la mort n'est pas là. Mais c'est une question de foi, non pas en nous-mêmes, mais en lui. Seigneur, je crois en toi. Je considère le fait en toi. C'est-à-dire, je prends en compte, je reconnais que je suis mort en toi. Demeurons, restons dans cette attitude de foi à chaque instant. Les quatre premiers chapitres, et jusqu'au verset 5 du chapitre 5 des Romains, parlent de la foi, et encore de la foi. Nous sommes justifiés par la foi en Christ, Romains 3, 28 et 5, 1. La justice, le pardon de nos péchés et la paix avec Dieu, tout est à nous par la foi. Et sans la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, personne ne peut rien posséder. Mais dans les chapitres suivants, nous ne trouvons plus cette mention répétée de la foi, et il pourrait sembler, tout d'abord, que l'accent soit mis sur une autre chose. Il n'en est cependant pas ainsi, car là où manquent les mots « foi » et « croire », c'est l'expression « considérez-vous » qui prend leur place. Se considérer et croire veulent ici pratiquement dire la même chose. Qu'est-ce que la foi ? La foi est notre acceptation d'un fait de Dieu. Elle a toujours son fondement dans le passé. Ce qui regarde vers l'avenir est plutôt l'espérance que la foi. Bien que la foi ait souvent son objet ou son but dans l'avenir, comme nous le voyons dans Hébreux 11. C'est peut-être pour cette raison que le mot choisi ici est « se considérer ». C'est un mot qui est lié seulement au passé, à ce que nous regardons en arrière comme établi, et non pas à ce qui est encore à venir. C'est la foi que décrit Marc 11, 24. « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. » Ce qui nous est dit ici, c'est que si nous croyons que nous avons déjà obtenu ce que nous demandons, c'est-à-dire en Christ naturellement, cela nous sera accordé. Vous connaissez sans doute cette anecdote. Un groupe de chrétiens, dont la plupart sont cultivateurs, tiennent une réunion de prière pour demander au Seigneur d'envoyer la pluie, car la sécheresse dure et menace leur culture. À cette réunion, une sœur, et seulement elle, est venue avec son parapluie, témoignant ainsi de sa foi dans la réponse de Dieu. Dans cette anecdote, il est question de saisir un fait à venir, un fait incertain, qui repose finalement sur le bon vouloir de Dieu. Dans le cas de notre crucifixion avec Christ, la foi s'empare, valide, homologue, un fait divin déjà accompli en Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir de doute quant à son accomplissement dans le passé. Croire que nous pourrions l'obtenir, ou que nous pouvons l'obtenir, ou que nous l'obtiendrons, ce n'est pas la foi dans le sens dont il est question ici. Croire que nous l'avons déjà obtenu, voilà la vraie foi. La foi dans ce sens repose sur ce qui a été fait, accompli dans le passé. Ceux qui disent « Dieu peut » ou « Dieu pourrait » ou « Dieu doit » ou « Dieu veut faire » n'ont pas nécessairement la foi. La foi dit toujours « Dieu l'a fait. Quand donc ai-je la foi en ce qui concerne ma crucifixion? Non pas lorsque je dis « Dieu peut ou veut ou doit me crucifier », mais quand je dis avec joie « Que Dieu soit loué, en Christ, je suis crucifié ». Le chapitre 3 des Romains nous montre le Seigneur Jésus portant nos péchés et mourant à notre place comme notre substitut, afin que nous soyons pardonnés. Le chapitre 6 des Romains nous montre que nous-mêmes, nous avons été inclus dans sa mort et qu'ainsi, il a assuré notre délivrance. Quand le premier fait nous a été révélé, nous avons cru en lui pour notre justification. Dieu nous demande de reconnaître le second fait pour notre délivrance. Ainsi, se considérer dans la seconde section des Romains remplace la foi de la première section. Le sens est le même. Par cet acte de foi, nous entrons dans la vie chrétienne normale, la vie de Christ, et nous la vivons progressivement dans notre expérience. Les deux plus grandes réalités de l'histoire sont donc pour nous celles-ci. Tous nos péchés ont été effacés par le sang et nous avons été nous-mêmes mis de côté par la croix. Ce volet est un peu long, il est donc divisé en deux parties. La prochaine fois, nous verrons le défi de la foi, les tentations et les chutes. Je vous propose de revenir sur les différents points que nous avons vus ce matin. À moins de savoir comme un fait que nous sommes morts avec Christ, plus nous essayerons de nous considérer comme tels, plus intense sera le conflit et plus certaine sera la défaite. Ce n'est pas parce que je me considère comme mort que je le suis, mais c'est parce que je suis mort, parce que je vois ce que Dieu a fait de moi en Christ, c'est pour cela que je me considère comme mort. Dieu nous demande de nous considérer comme mort, non pas pour que nous mourions en le faisant, mais parce que nous le sommes. Il ne nous a jamais demandé de reconnaître une chose qui ne serait pas un fait. Sachant bien que notre vieil homme a été crucifié avec lui, vous donc aussi, considérez-vous comme mort.